Et nous allons nous recueillir devant le Seigneur dans cette matinée du 15 août, où nous allons nous pencher sur le dernier chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir permis d'arriver jusqu'à cette ultime étape. Et nous te demandons de nous bénir encore dans l'étude de ta parole. Nous avons besoin de ton aide puissante par ton esprit qui veut nous présenter toujours au centre la personne de Jésus, de ton Fils bien-aimé, que tu nous demandes d'écouter, en qui tu as mis tout ton plaisir. Oh, que tu nous accordes la grâce de trouver désormais en ton Fils notre vrai plaisir, notre vrai bonheur. C'est ce que nous te demandons, afin que nous vivions déjà un peu du ciel sur la terre. Car Jésus dans nos cœurs, c'est le ciel sur la terre. Amen. Bien oui, nous arrivons à ce dernier chapitre, aux recommandations et aux salutations et aux dernières exhortations de l'apôtre Paul. Recommandations dans les versets 1 à 2. Salutations dans les versets 3 à 16. Combien Paul nomme-t-il de personnes? 2 fois 12, ça fait 24 personnes sont nommées. Et l'on voit de quelle manière touchante le cœur de l'apôtre s'arrête à tous les détails de service qu'il attachait à ceux et à celles qui en avaient rendu. Lui, l'apôtre, qui avait été transporté jusqu'au troisième ciel, qui avait entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer, il n'était pas resté là-haut, mais il était bien sur la terre, il avait les pieds sur la terre, la tête sur ses épaules, son cœur était resté dans le ciel, mais son cœur était sensible à tout ce qui se passait. Il avait certainement vu que dans le ciel il y avait un grand livre et que tout était noté. Alors, quand il était revenu sur la terre, il avait aussi gardé ce souvenir que tout était noté dans le ciel, et dans son cœur c'était aussi noté ce que les autres avaient fait pour lui, et il aimait à le souligner. C'est tellement beau de voir l'humilité de l'apôtre, reconnaissant que certaines femmes avaient été pour lui comme une mère, d'autres vraiment des êtres qui avaient offert leur propre cou pour le sauver. Puis, alors dans les versets 17 à 24, vous avez les derniers avertissements, les derniers vœux de l'apôtre, et enfin la doxologie dans les versets 25 à 27, l'action de grâce. Bien, prenons maintenant un peu le détail de tout cela. Verset 1 et 2. Je vous recommande Phoebé, notre sœur. Est-ce que c'est la sœur de Paul, selon la chair? En avait-il une? Oui. Pour quelle raison? C'est mentionné dans le livre des Actes, puisqu'il avait un neveu. Et c'est ce neveu qui est venu lui dire le complot qu'on était en train de fomenter contre lui. C'était le fils de la sœur de Paul. Mais Phoebé est sa sœur en Christ. Une sœur dans le Seigneur. Et cette sœur était diaconesse de l'église de Sancré. Qu'est-ce que c'est Sancré? C'est une ville, c'est le port de quelle grande ville? De Corinthe, sur la côte de l'Asie. Vous avez ça dans Actes 18, verset 18. Et Phoebé est appelée diaconesse. C'est la seule femme qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui est appelée diaconesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres, mais qui est nommée. Mais ça suffit pour que nous soyons obligés de reconnaître que, après avoir institué le ministère de diacre, dans le chapitre 6 des Actes, les apôtres se sont vite rendus compte qu'il devait y avoir un ministère parallèle pour les femmes, qui avaient toute une action à accomplir auprès des sœurs, auprès des pauvres, auprès des malades. Et c'est ainsi que s'est institué ce ministère de diaconesse pour les femmes, qui devaient avoir aussi toutes ces qualifications requises pour le diacre. Et vous trouvez ce qu'une femme pouvait être si elle était âgée. Elle pouvait être comme une mère pour les plus jeunes. Si elle était jeune encore, eh bien, nous avons aussi les qualifications d'une jeune femme chrétienne, ce qu'elle peut être pour ses compagnies. Et c'est toujours une diaconesse ou un diacre, c'est un serviteur, une servante du Seigneur. Et on accomplit ce service comme si on servait le Seigneur lui-même. Et le nom de Phoebé est un nom païen, de sorte qu'on peut penser que Phoebé n'était pas une juive convertie, mais une païenne qui s'était tournée vers le Seigneur et qui était devenue servante du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ qui nous l'a fait connaître. Et on pense que c'est elle qui a porté la lettre de Paul, cette épître, aux Romains, à Rome. Alors, l'apôtre la recommande. Vous voyez que on a parlé de lettre de recommandation dans les Corinthiens aussi. Une lettre de recommandation, ce n'est pas une lettre qui vous autoriserait de prendre la Sainte Seine dans une autre église, comme trop souvent on en a fait, au fond, uniquement le but. On vous donne une lettre de recommandation pour que vous puissiez prendre la Sainte Seine, pour que vous soyez reçu dans l'autre église. Ce n'est pas une lettre de recommandation qui vous permet de prendre la Seine, vous l'avez bien compris. C'est de vous examiner. Vous-même, vous pouvez avoir toutes les lettres de recommandation possibles. C'est pas ça. Pour la scène, c'est vous-même avec le Seigneur. Maintenant, si vous êtes un pécheur public et que tout cela se connaît, alors l'Église doit intervenir, vous avertir que vous courez un danger mortel de venir communier indignement, de venir communier en restant dans un état de péché. Mais si vous confessez votre péché, le Seigneur est puissant pour vous restaurer et vous réintégrer dans sa communion. Mais une lettre de recommandation, comme vous le voyez ici, c'est pour dire, bien voilà, je vous connais à Montréal, je sais que vous allez déménager à Québec, vous ne connaissez personne, je connais Charles et Thérèse Baillargeon, et je me permets de leur écrire pour leur signaler la présence d'une sœur ou d'un frère qui sera très solitaire et nous aimerions qu'il soit entouré. Voilà. Alors, vous savez de qui il est question. Je ne vous recommanderai pas quelqu'un qui vous fera un mauvais coup. Enfin, je l'espérais. Jusqu'à la fin de notre vie, on peut toujours se demander quel coup nous pourrions faire. Parce que regardez David, après avoir fait des si beaux psaumes, il a fait un drôle de coup. Alors, si on recommandait David, inconditionnellement, c'est pour ça, il n'y a pas d'infaillibilité. Veillons toujours. Veillons et prions. Mais vous voyez maintenant le sens d'une lettre de recommandation. Quand on vous parle de ça dans vos églises, quel est le sens de la lettre de recommandation? C'est vous permettre d'être accueilli, d'être entouré par des frères et des sœurs en Christ. Et ça n'a rien à faire avec la Sainte, avec le Christ. Alors, afin que vous la receviez en notre Seigneur. C'est beau, hein, d'être aussi en notre Seigneur. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est membre de mon club, je vous l'envoie dans votre club. C'est un peu comme ça dans les églises maintenant. C'est ça qui est triste. Hein. On est devenus des clubs. Il n'est pas question de ça. Il est question qu'on est dans le Seigneur et qu'on se reçoit dans le Seigneur. Et d'une manière digne des saints. De quels saints? Des croyants, de ceux qui sont séparés pour le Seigneur, qui sont dans le monde mais qui ne sont plus du monde. Et alors justement, cette personne qui va dans votre ville de Québec, n'étant plus du monde, elle ne peut pas s'attendre à être reçue par le monde, puis elle ne veut pas être reçue par le monde. Mais alors vous êtes son monde, à elle, puisque vous avez la même patrie, gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints, notre bourgeoisie est dans les cieux, alors nous nous recommandons les uns les autres à la grâce du Seigneur. Parce que nous avons été mis à part, nous sommes sanctifiés dans le Seigneur. Et on vous demande que vous l'assistiez dans les choses où elle pourrait, où elle aurait besoin de vous. C'est pas simplement l'assister matériellement, mais elle peut avoir besoin de vos conseils parce qu'elle est nouvelle venue dans cette ville. Et il y aura peut-être certaines difficultés qu'elle aurait de la peine à surmonter, mais vous, étant citoyen de cette ville, connaissant les lieux, vous pouvez donc lui être utile. Car, dit l'apôtre, elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Alors, ça c'est une recommandation. Puisqu'elle m'a aidé, elle en a aidé d'autres, c'est votre tour de l'aider. C'est cela, cet échange fraternel que le Seigneur voudrait voir dans nos communautés et dans nos familles. Et alors, avec le verset 3, commencent donc ces salutations personnelles. Et vous voyez, les noms sont donnés. Saluez Prisca ou Priscille et Aquilas, les compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et c'est dans le chapitre 18 du livre des Actes qu'on voit comment Paul, arrivant à Corinthe, ne connaissant personne, a trouvé cet Aquilas et cette Priscilla et qui avaient été chassés de Rome par la persécution de l'empereur Claude et qui étaient venus s'établir à Corinthe. Et qui était quoi comme métier? Faiseur de tente. Et comme Paul avait le même métier, eh bien, il s'est joint à eux pour travailler. Il a demandé d'être embauché. Vous voyez le grand Paul, le grand serviteur de Dieu qui va demander de l'embauche. Et puis, le Seigneur qui conduit toutes choses permet que ces gens soient déjà des croyants juifs. Mais Paul, dans son travail, en continuant de gagner sa propre vie, tirant sur son aiguille, les enseigne en même temps, sans se piquer, n'est-ce pas? Alors, elles sont les piquer non plus. C'est cela qui est tellement merveilleux. Vous voyez comme c'est naturel le témoignage. Et il a trouvé un foyer, c'est Aquilas et Priscilla, et il les appelle ensuite ses compagnons d'œuvre. Parce que ces faiseurs de tente ont reçu la grâce d'être enseignés par Paul et ils ont tout de suite voulu en faire bénéficier d'autres. Et six fois, on retrouve leur nom dans le Nouveau Testament. Et ce qui me frappe toujours, c'est que trois fois, c'est Priscilla qui est nommée la première, Priscilla et Aquilas, et trois fois, c'est Aquilas qui est nommé le premier, et Priscilla, la dernière. C'est un équilibre parfait. Et vous trouvez ces textes, n'est-ce pas? Ici, Prisca est nommée la première, ainsi que en 2 Timothée 4,19, dans le Testament de Saint Paul, et en Actes 18, verset 18. Et on voit que Priscilla avait tout un ministère dans Actes 18, avec Aquilas, ils ont enseigné un homme remarquable, qui en savait beaucoup, et qui a accepté d'être enseigné par une femme. C'est qui? Apollos. Et Priscilla était tellement versée dans les Écritures qu'avec son mari, eh bien, ils ont pu convaincre Apollos de certaines choses et de préciser sa doctrine, parce qu'il ne connaissait que l'enseignement de Jean-Baptiste. Bien voilà, une femme qui a été en aide à un grand serviteur de Dieu, un orateur remarquable, Apollos. Et il y avait une chose aussi qui était remarquable chez Aquilas et Priscilla, donc qui étaient des artisans, qui gagnaient quand même leur vie. Eh bien, tout ce qu'ils gagnaient, ils le mettaient au service du Seigneur. Et c'est ainsi que dans chaque ville où ils se sont trouvés, qu'est-ce qu'on a vu dans leur maison? Une église. L'église maison. Méditez un peu sur cela. Que peut devenir votre foyer? Vous vous recevez les uns les autres. Et qu'est-ce que c'est qu'une église? Tous les théologiens sont d'accord pour dire que la véritable église se trouve dans Matthieu 18, verset 20. Là, c'est le lieu. Où deux ou trois, c'est le nombre suffisant. Pour qu'une réunion soit valable chez les Juifs, combien faut-il de personnes? 10, hein? À cause de la fameuse intercession d'Abraham. Hein? S'il y avait 10 justes, et pour qu'il y ait une réunion valable dans la synagogue, il faut qu'il y ait 10 personnes. Pour qu'il y ait une réunion valable chez les chrétiens, combien faut-il être? 2 ou 3. C'est merveilleux. 2 ou 3. Là où 2 ou 3, c'est le témoignage. Le chiffre 2, c'est le sur la déposition de 2 témoins, toute affaire sera établie. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Quel est le centre qui rassemble? Quelle est l'autorité qui rassemble? Le nom de Jésus. C'est tellement beau ça. Quel est le centre d'un rassemblement? C'est Jésus. C'est pas une doctrine, hein? C'est le Seigneur Jésus. C'est ni le baptême, ni la Sainte Cène, parce que dès que vous isolez ces doctrines, vous devenez sectaire. C'est la personne du Seigneur en qui se trouvent toutes les vérités. Comprenons bien cela. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis qui est je suis, lui-même. Et alors c'est le je suis de Moïse, le je suis du buisson qui est là. Alors, quand le je suis est là, on est sur une terre sainte. Un lieu saint, c'est où est je suis? Ça peut être dans le désert, ça peut être dans une forêt, ça peut être dans vos tentes. Il y avait là des petites communautés qui se rassemblaient, vous en avez eu le témoignage. Vous ne trouvez pas que c'est beau de vous retrouver? L'église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. C'est un temple spirituel, les pierres, c'est vous. Nous sommes sa maison. Sa maison, c'est nous. Alors, vous voyez, c'est pas se rendre dans un édifice préfabriqué, mais c'est être un édifice. Ça ne supprime pas le lieu géographique, parce que nous en avons besoin. Quand le Seigneur a voulu célébrer la Pâque, les disciples lui ont dit, « Où veux-tu, Seigneur, que nous préparions la Pâque ?» Mais il n'avait pas de maison à lui, à Jérusalem, alors il leur indique un certain personnage et qu'ils pourront suivre et qui les conduira en un lieu où on trouvera une chambre toute préparée. C'est un lieu tout à fait providentiel. Et je me souviens, Jean-Roger nous expliquait à Jérusalem le fond du fond de cette histoire-là. Comment est-ce que on reconnaîtrait cet homme dans une grande ville comme Jérusalem? À quel signe? Vous trouverez un homme qui porte une cruche d'eau. Qu'est-ce qui portait les cruches d'eau dans ce temps-là? C'est uniquement les femmes. Alors voir un homme qui porte une cruche d'eau, ben c'est sensationnel. C'est super. Alors, vous avez qu'à suivre l'homme qui porte une cruche d'eau. C'est inusité. Voilà ce que le Seigneur a. Parce que c'est les femmes. Alors ils n'avaient pas besoin de regarder très pour vous trouver. Non, un homme. Ça allait se reconnaître immédiatement. Si vous le suivrez, vous trouverez une chambre préparée. Donc, il faut bien un lieu. Alors, nous bénissons Dieu pour la chambre haute. Mais c'est pas mon église. C'est pas ma chambre. C'est la chambre que le Seigneur a mis à notre disposition. Voilà. Lieu providentiel. Comme c'est simple. On a tout compliqué. Et puis on s'est mis des soucis, des fardeaux, des hypothèques à ne plus en finir. C'est vrai, ça. Puis alors on tire la langue, et puis on tape les gens sur les fils et sur le cœur. Il faut sortir l'argent, mais il faut faire face à des obligations. Et puis alors on a des réunions où c'est toujours des réunions d'administration, des questions matérielles, alors qu'on pourrait être occupé des questions spirituelles. Et on aurait beaucoup moins de charges. Mais je ne suis pas contre les édifices, il en faut. Hein. Mais soyons plus simples, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc l'église était dans les maisons, l'église maison. Alors c'est Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour lui sauver la vie. On ne sait pas où ils l'ont fait, c'est probablement à Éphèse, où il y a eu donc une terrible persécution, un terrible trouble à cause de la grande Diane des Éphésiens. Et on peut penser que là, Priscille et Aquilas ont pu sauver la vie de Paul. Mais au risque de perdre la leur. Hein. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. C'est merveilleux, ça. Toutes les églises des païens rendaient grâce à ce couple. Vous voyez qu'on peut être un couple heureux, un couple en bénédiction, et un couple sans enfants. Ils ne se sont pas desséchés parce qu'ils n'avaient pas des enfants, mais ce couple sans enfants s'est ouvert pour recevoir des enfants spirituels. Et il leur en a mis beaucoup de ces enfants spirituels. Ils sont venus père et mère d'une multitude, comme Abraham, et les églises des païens leur rendaient témoignage. Et c'est la seule fois qu'on trouve cette expression, les églises des païens. C'est très beau cette expression, verset 4. Hein? Donc il y a une église dans leur maison, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Éphèse, et comme on le voit ici, à Rome, il y avait une église dans leur maison. Parce que, évidemment, dans une grande ville, il fallait plusieurs lieux. Alors, ces lieux, on se réunissait à plusieurs endroits, et pour que la communauté soit vivante, il ne fallait pas qu'elle soit une multitude. Il valait mieux des petits groupes. Mais ces petits groupes n'étaient pas en conflit les uns avec les autres. Ces petits groupes, tous ensemble, formaient l'église du Seigneur à Rome. Mais qui se réunissaient dans telle rue, qui se réunissaient dans telle avenue. Mais l'ensemble de tous ces groupes formait l'église de Rome. Mais on se réunissait en petite communauté, parce que sans ça, quand vous avez une grande communauté, vous ne vous connaissez plus. Et vous êtes noyés. Vous vous noyez dans les grandes églises. Et puis vous n'êtes qu'un numéro, puis personne ne vous connaît. Or, si vous voulez réaliser la vie du Seigneur, c'est pas de chercher. Moi, je fais partie de la plus grande église de Québec, ou je fais partie de la cathédrale, ou je fais partie de la chapelle, la plus grande chapelle évangélique, ou la plus grande salle très propre de la ville. Oui, une salle. Mais il y a eu des discussions à n'en plus finir. Il y avait un lieu qui s'appelait chapelle évangélique. Et puis ceux qui ont repris ont dit non, ça va pas. Alors ils l'ont appelé salle évangélique. C'était mieux que chapelle. Si vous voulez. Si c'est plus propre, oh, salle, c'est plus propre que chapelle. Non mais nous en sommes devenus ridicules. Vous ne trouvez pas? On en arrive à discuter là-dessus. Si vous laissez le mot chapelle, moi je n'aimerais pas. Ben, d'accord. Si c'est ça. Que c'est triste. L'église dans leur maison. C'est tellement simple. C'est
tellement beau. Et les églises des païens en rendaient témoignage. Maintenant, verset 5. Saluez aussi l'église donc, qui est dans leur maison, ça veut dire tous ceux qui s'y réunissent. Les noms ne sont pas donnés. C'est Aquila et Priscilla qui doivent maintenant transmettre des salutations de Paul à ceux qui se rassemblent, mais qui ne sont pas nommés. Maintenant, saluez Epaïnette. C'est un beau nom, hein? Vous allez appeler votre petit garçon Epaïnette? Ce serait une idée, hein? Mais faites attention parce que le monde lui dira que tu n'es pas net. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Il y en a un couple qui avait appelé du nom du fils aîné d'Isaïe, il s'appelait Eliab. Et tout le monde lui criait, « Eliab !» Il faut faire attention, les jeunes, les enfants sont très méchants. Alors, moi j'ai appelé ma fille Grâce, Marie-Lise, hein, c'est son nom final, c'est Grâce. Et puis, un jour, quelqu'un a dit, « C'est vrai, elle n'est pas maigre. » Elle était petite à ce moment-là. C'est mon beau-frère qui m'a raconté cela. Et c'était deux religieuses qui passaient. Et puis, elles ont dit, « Oh, qu'elle est mignonne, cet enfant. » Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais enfin, à ce moment-là, les religieuses la trouvaient mignonne. Et puis mon beau-frère, qui était avec sa nièce, se dit, eh bien, c'est évident, hein. elle s'appelle Grâce. Il dit, en effet, elle n'est pas mère. Les religieuses qui ne savent pas encore ce que c'est que la grâce. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, saluez Epaïnette, mon bien-aimé. Mon bien-aimé, que c'est beau, hein, cette relation de Paul avec cette Epaïnette. Qui a été pour Christ les prémices de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été le premier converti. Bien oui, il y en a un qui se convertit en premier. Qui est le premier converti de ce camp? Il y en a eu un? Quelqu'un qui s'est donné au Seigneur? Qui pourrait encore être le premier converti de ce camp? Si ça n'a pas eu lieu. Voilà. Peut-être, hein, oui. Bien oui. J'espère être net. Pas net. Eh bien, voilà. Saluez-le. C'est un bien-aimé. Il a été pour le Christ les prémices de la vie. C'était comme le départ. Hein. Lui s'est converti, puis après il y en a eu d'autres. Hein. C'est les prémices, les premiers fruits. Alors, saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Et voilà, l'apôtre le sait. Hein. Il y a des choses qui se savent. Et pour nous, évidemment, ces gens sont des inconnus, mais tout à coup, vous réalisez que vos noms aussi peuvent être écrits dans le grand livre. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter sur ces noms dimanche. Le chapitre 16 des Romains, il n'y a que des noms à coucher dehors avec un billet de logement. Mais oui, je sais, il n'y a pas une lettre. Mais au fond, on ne pourrait pas y mettre mon nom, Gaston, c'est aussi un nom. Quel nom, Gaston? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça veut dire hôte. Oui, en allemand. Oui, hôte. Alors, hôte, il y a les deux choses. Hein. C'est celui qui reçoit et celui qui est reçu. On me dit ça à Neuchâtel. Mon pasteur, ça m'a fait plaisir. Gaston, Gaston, ça veut dire hôte. Et l'autre, c'est celui qui reçoit, puis en même temps, celui qui est reçu. Alors, nous recevons. Alors, je me réconcilie avec le nom que mes parents m'ont. Et maintenant, saluez Andronicus. Mon cher petit Andronicus, mon mignon Andronicus. Et ça, vous vous habituerez. Et puis, Junias, on pense que c'était sa femme. Alors, ce serait encore un couple. Mais qui dit mes parents, est-ce que le père et la mère de Paul? Non. C'est un lien de parenté, selon la chef. Et ils sont devenus ses compagnons. de captivité. De quelle captivité? Bien, il a été tellement de fois en prison, l'apôtre Paul. On a des récits où l'on sait qu'il était 2 ans à Césarée Maritime, et puis à Rome aussi, 2 fois. Mais quand vous lisez dans la 2e épître aux Corinthiens, vous voyez qu'il parle de ses prisons plusieurs fois en prison dans d'autres endroits. Il était prisonnier où aussi? Peut-être à Philippe, n'est-ce pas? Alors, mais là, c'est pas à Philippe que Andronicus et Junias ont été ses compagnons de captivité. C'est dans un autre endroit, certainement. Puisque à qui était le compagnon de captivité de Paul à Philippe? Paul et Silas. Silas, hein? Ils chantaient des cantiques pendant la nuit. Alors, ces compagnons de captivité, qui sont aussi ses parents dans la chair, jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Et qui même, il le reconnaît, ont été en Christ avant moi. Donc il y a un moment où on est en Christ, il y a un moment où on n'était pas. Est-ce que vous êtes en Christ maintenant? Êtes-vous en Christ après ces journées de camp? Bien, Andronicus et Junias avaient été en Christ avant l'apôtre Paul. Maintenant, verset 8. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Là, il nous dit rien, mais certainement que cet Amplias a eu aussi un titre à la reconnaissance de l'apôtre. Oui, ces noms éminents sont aujourd'hui inconnus et ne seraient jamais parvenus jusqu'à nous sans cette fraternelle salutation de l'apôtre. Et combien d'autres noms sont ignorés des hommes? Mais ils se trouvent écrits où? Dans les cieux. Hein? Ils sont écrits dans les cieux. Alors, saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Le Seigneur l'a testé. Hein? Qu'est-ce que tu as, toi? Oui, ben, il y a les deux choses. Hein? Être approuvé en Christ, ou bien être éprouvé. Étudie-toi à être un homme éprouvé de Dieu, c'est-à-dire on sait que tu as été testé en quelque sorte, hein, et que ta foi est solide. Ses preuves. Oui, ben c'est ça, il a fait ses preuves. C'est pas un homme éprouvé dans le sens nécessairement d'une souffrance, d'une maladie, hein, mais on peut être sûr de lui. Saluer ceux de la maison d'Aristobule. Alors, qu'est-ce que c'est ces gens qui, dont il est dit, saluer ceux de la maison d'Aristobule? Non, oui, mais quand c'était une église dans la maison, eh bien, c'était... Il l'a dit. Ceux de la maison. Non. Les esclaves. C'est parce que vous êtes à Rome, hein, au temps de l'esclavage. Et alors, il y avait beaucoup d'esclaves qui s'étaient convertis. Et alors, parmi les esclaves d'Aristobule, il y en avait qui étaient vraiment au Seigneur. Alors, saluez ceux de la maison d'Aristobule. Il est question là des esclaves. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Donc on voit que il y avait un homme qui s'appelait Narcisse, comme il y en a un autre qui s'appelait Aristobule. Et il y avait des esclaves dans leur maison qui étaient convertis, mais pas tous ici. Ceux qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphos, qui travaillent pour le Seigneur. C'est beau, hein? Voilà 2 personnes qui sont ensemble. 2 hommes marcheraient-ils ensemble s'ils n'étaient pas d'accord? On peut être à 2, un ministère à 2. Le Seigneur les envoyait 2 à 2. eh bien, il y en a aussi qui travaillent pour le Seigneur. Dieu va mieux quand ils ont un bon salaire pour leur travail. Ça lui est perçible, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Ça lui est Rufus, l'élu du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Rufus? Et sa mère, qui est aussi la mienne. Si c'est beau. La mère de Rufus, Paul dit, c'est aussi la mienne. Elle était pour Paul comme une mère. Et qui est ce Rufus? Le fils de Simon de Cyrène. Vous avez ça dans Marc. Et là, on apprend que Simon de Cyrène, qui revenait des champs et qui n'avait pas du tout envie de faire une rencontre pareille, a été contraint, réquisitionné par les soldats romains et le centurion pour porter la croix du Seigneur. Ça ne devait pas être drôle pour lui. Eh bien, le fruit de cela, ça a été la conversion de sa femme et de ses deux enfants, Rufus et Alexandre. Ainsi était bien connu dans l'église primitive. Et la mère de Rufus, Paul dit qu'elle est aussi la sienne. Vous voyez donc que ce Paul avait des relations tendres et intimes avec des sœurs. Saluez Asyncrite, Phlegon, Hermès, pas trop bas, pas trop, pas trop. Il y a aussi des drôles de noms. Comment? Ah oui, comment c'est dit en anglais? Il n'y a rien qui ressemble à ça. Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Vous savez, quand on visite certaines familles avec un siècle de Bible dans le cœur, hein, eh bien, on trouve des noms comme ça chez leurs enfants, des Néré. Alors, on sait que ces gens-là ont lu le chapitre 16 des Romains. Néré, tiens, on se dit, ils ont lu le chapitre 16 des Romains, ils ont trouvé ce nom-là. Ou Damaris, ils ont lu, comment? Ou Priscille, on sait qu'ils ont lu les Actes aussi. Et tous les saints qui sont avec eux. Vous voyez que les saints ne sont pas retirés au fond du ciel. Et puis, ils ne sont pas dans des niches. Ils sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et ça revient dans plusieurs épîtres. De sorte que ce saint baiser est devenu la marque des enfants d'une même famille. Les membres de la famille de Dieu n'ont pas à craindre de se manifester la démonstration la plus intime de l'affection. Un saint baiser. N'exagérons pas, hein. Il est dit un. Attendez, je me souviens d'une fois d'être en Belgique, et puis là, il nous en donne trois, hein, toujours, parce que c'est la Trinité, là. Et puis il y en a un qui en avait marre d'avoir trois, il a dit, l'Écriture dit un, mon frère. Un saint baiser, hein. Mais c'est de là qu'est venue la coutume dans l'Église primitive, avant la scène, juste avant le repas du Seigneur, pour bien montrer qu'on n'avait rien les uns contre les autres, on se donnait la main et on se donnait un saint baiser. Tout le monde s'embrassait pour bien montrer que on n'avait rien l'un à l'égard de l'autre. Alors ça, c'est le baiser de paix. On se donne le baiser de paix, on peut le faire demain si vous voulez, avant de prendre la communion, pour bien montrer qu'il n'y a rien. Mais de nouveau, on ne veut pas tomber dans une espèce de routine, et puis parce que ça se fait, on le fait, comprenez-vous? Mais ça, c'est une chose qui peut être faite. Mais si vous savez que votre église est en pleine bisbille, eh bien, Ces saints baisers, ça devient des baisers de Judas. Comprenez-le. Il faut que ça corresponde. Ça ne faut pas que ça devienne une routine. Ce geste, je le disais, est mentionné dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 26, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 20, et dans la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, et dans la première Épître de Pierre. Donc Pierre et Paul sont d'accord pour le Saint-Baiser. Et il a passé donc dans les actes du culte, juste avant la prière, et immédiatement avant la célébration de la scène, après la prière et avant la célébration de la scène. Toute l'Église primitive se saluait par ce Saint-Baiser, pour manifester l'union que l'on a les uns avec les autres. On ne communie pas seulement pour soi, mais avec nos frères. Et voilà encore toutes les Églises du Christ. Vous savez, comme c'est beau cette unité, toutes les Églises du Christ. Vous saluez. Il y avait l'unité. Versets 17 à 24, la troisième partie, nous avons là les derniers avertissements contre les séducteurs. Et puis, les salutations. Alors, là, il y a quelque chose qui vous a peut-être frappé. Brusquement, après les salutations de Paul, et avant celles de ses compagnons, qu'on trouve au verset 21, intervient ici un avertissement dont le contenu est le ton plein de vivacité, contraste fort avec le reste de l'épître. Et alors, on a tout de suite dit que cette partie-là n'était pas authentique, parce qu'il semble que c'est un autre style. Eh bien non, ce n'est pas une raison pour supprimer ce passage, parce qu'on retrouve des traits semblables à la fin de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 21, comme aussi vous pouvez comparer dans Galates 6, verset 11. Il faut voir comment l'apôtre est. Tout d'un coup, il sent le besoin de dire encore quelque chose, alors il ajoute. Peu importe sa lettre, n'est-ce pas, il s'est pas dit, je veux composer une belle lettre. Il a laissé parler son cœur. Puis tout à coup, eh bien, sous l'action du Saint-Esprit, il voit que, après avoir dit toutes les églises du Christ vous saluent, c'était mon goût, cette unité, qu'il a tout à tout cœur. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, toutes les églises du Christ sont unies, mais justement, quand on est en train de dire cela, il voit le danger des divisions. Alors tout à coup, je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Vous voyez, ils viennent au fond de manifester l'unité de l'Église, et quand on parle de l'unité, quand on est heureux de voir l'unité entre nous, immédiatement, le diable est là pour essayer d'apporter la division. Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Voyez-vous, les gens qui causent des divisions, ce ne sont pas des gens conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par la chair, que ça leur fasse mal ou pas, nous affirmons cela. Ceux qui provoquent des divisions ne sont pas des hommes conduits par le Saint-Esprit. Parce que ce que fait le Saint-Esprit, c'est de rassembler les croyants. Le Saint-Esprit unit ensemble les croyants et il nous sépare du mal et du monde. Mais il ne divise jamais les enfants du même père. Ce qui divise, c'est la chair. Et les divisions sont dans le catalogue des œuvres de la chair. Vous pouvez le trouver dans Galates, chapitre 5. Les divisions sont les œuvres de la chair. Alors, quelqu'un qui vient à vous et qui cause des divisions, vous savez qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. L'apôtre s'était réellement donné pour enseigner les Romains, et puis d'autres avant lui les avaient enseignés. Donc il fallait rester fidèle à cet enseignement. Et quand il y a quelqu'un qui vient avec de belles paroles pour dire oui, c'est très bien ce que vous faites, mais il vous manque ceci, il vous manque cela, et puis on commence à vous endoctriner et à vous mettre contre ceux qui vous enseignent. Alors, faites attention. Vous devez vous joindre à ceux qui aiment le Seigneur Jésus et qui veulent être nourris de sa parole. Éloignez-vous d'eux. Il y a donc, on l'a demandé, de qui devons-nous nous séparer? Eh bien, nous avons à nous éloigner de ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Alors, l'enseignement que nous avons reçu, c'est celui de la parole. Et vous pouvez être dans un milieu pendant des années, on ne vous a peut-être pas enseigné ces vérités de la parole. Quand vous recevez ces vérités de la parole et que ça devient lumière dans vos cœurs, eh bien, forcément que peut-être vous devrez quitter ce milieu-là. Mais là, ce n'est pas une division. C'est parce que vous voulez grandir et aller plus loin. Alors, ce n'est pas nécessaire de rester à la garderie d'enfants toute votre vie. Bénissez le Seigneur de ce que vous avez reçu quand vous étiez à la garderie. Comment vous appelez ça? La garderie, oui. Mais, maintenant que vous avez grandi, allez plus loin, progressez. Ça, c'est pas la division. Alors, il est parlé de ces hommes-là, car de tels hommes ne servent point le Christ, notre Seigneur. Vous voyez, ils peuvent prétendre qu'ils servent le Christ, mais l'apôtre dit qu'ils ne le servent point. Mais qu'est-ce qu'ils servent? Leur tambour. Leur propre ventre, c'est-à-dire ils se servent eux-mêmes. Et vous pouvez voir dans Philippiens chapitre 3, il est dit que il y en a qui marchent, donc ils ont une espèce de témoignage, il y en a parmi vous qui marchent, je le dis en pleurant, ils sont ennemis de la croix du Christ. Et puis leur qualification, l'apôtre ne se gêne pas de le dire, mais il le dit en pleurant. Ils marchent, ils sont au milieu de vous comme s'ils étaient des fidèles. Verset 18 du chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Donc ce n'est pas des sauvés. Hein. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Leur but, bien, c'est de s'enrichir peut-être à vos dépens. Ils ne servent pas le Christ. Ils se servent. Êtes-vous de ceux qui, dans l'Église de Dieu, se servent, ou êtes-vous de ceux qui servent? Vous savez, si vous dites ça une fois dans une Église, vous faites des ennemis. Est-ce que vous vous servez, ou bien est-ce que vous servez? Ça, moi, je peux me le poser. Je peux me la poser, cette question. On a toujours besoin de retourner l'épée de la parole contre nous-mêmes. Nous laisser juger. La parole de Dieu nous travaille. Ils servent leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses. Attention, hein. Ces gens qui viennent vous flatter, faites attention. La flatterie n'est pas de Dieu. Ma langue ne sait pas flatter. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. On se dit, mais c'est bien gentil ce qu'on est en train de nous dire. On est content. Attention, attention. Pour vous, dit l'apôtre, votre obéissance est connu de tous. Obéissance à quoi? À la foi, hein? À la révélation. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire, alors ça c'est une règle que vous pouvez souligner, je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Ça vaut la peine que l'apôtre soit revenu pour faire cette exhortation. Notez cette preuve. Elle est infiniment précieuse. Elle est plus parfaite pour notre marche. Être sage quant au bien et simple quant au mal. Voyez-vous, il n'y a que le christianisme qui puisse donner une pareille règle. Car il montre la marche qui est positivement bonne et donne la sagesse pour la réaliser. Qu'est-ce qui est bon? Il n'y a que Dieu. Et qui a été la manifestation de sa bonté sur la terre? C'est Jésus. Alors, nous savons comment marcher, comme le Christ a marché. Nous avons le Seigneur comme modèle. Alors, on sait ce qui est bon. Vous savez ce qui est bon. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Bien, la vraie sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et nous savons ce qui est bon en lui. Et c'est une véritable délivrance. Et nous n'avons pas besoin d'expérimenter le mal comme le monde pour savoir avec tristesse que la chose est mauvaise. Hein? Les gens du monde, pour savoir qu'une chose est mauvaise, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent la goûter. Et ils connaissent le mal par expérience. Est-ce que vous avez besoin d'expérimenter le mal? Pas du tout. La connaissance du mal, vous pourriez l'avoir sans expérimenter le mal. Quand vous vivez avec le Seigneur, vous êtes comme sur une arête d'une cime, vous voyez le mal, vous voyez l'abîme. Est-ce que c'est nécessaire pour savoir que c'est un abîme de rouler au fond de l'abîme? Restez sur le sommet, les yeux fixés sur Jésus. L'abîme, il est là. Et vous pouvez voir quelle chute vous feriez. Hein. Mais ce n'est pas nécessaire de chuter. Parce que quand vous seriez par terre, là en bas, hein, oui, vous saurez que c'était mal. Mais vous le saviez déjà que c'était mal. Le vrai croyant, ben, c'est ça. Il voit le mal. Mais alors, il est simple. Je ne veux pas y tomber. Je ne veux tomber que dans les bras éternels. Soyez sages quant au bien. Le bien, c'est le Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Le mal, quand je le vois, je n'ai pas besoin de l'expérimenter. Pour savoir que je suis mauvais, est-ce que j'ai besoin d'expérimenter la chose? Non. Je sais très bien que mon cœur pourrait aller jusque-là. Mais je n'ai pas à le faire. Je suis mort. Je suis mort. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je suis mort. Un mort n'a plus besoin de précipiter. Souvenez-vous de cela. Sage quant au bien. Simple quant au mal. C'est pas compliqué. Mais nous, on complique tout. On dit, mais vraiment, est-ce qu'il y a du mal à ça? Vous n'êtes plus simple quant au mal. Quand on dit, est-ce qu'il y a du mal? Bien quand on entend quelqu'un qui dit, mais enfin, il n'y a pas plus de mal à faire ça qu'à faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas plus de mal? C'est bien? Bon, c'est mal. Mais soyez simple. S'il y a du mal, c'est pas le poids du mal, c'est pas la quantité. Ça sent un kilo ou deux kilos de mal. Sur le mal. Soyez simple. On dit toujours que la volonté du Seigneur, c'est difficile. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes des paresseux et qui sommes compliqués. Et on est tout à fait comme Balaam. Lui, il n'a pas été simple, là. Il savait qu'il ne devait pas y aller. Et alors, le résultat, verset 20, le Dieu de paix. Vous pouvez noter dans cet épître aux romain. Il est le dieu de la persévérance. Il est le dieu de la patience. Ici, il est le dieu de paix, le dieu de la paix. Le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, parce que c'est Satan qui est derrière tout ce mal. Mais un jour, on en sera débarrassé. Alors, tant que Satan est là, il faut veiller. Mais Satan, le lion, rugissant, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer. Mais un jour, ce sera fini. Le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est nous qui l'écrasons? Non, c'est le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. De quoi avons-nous besoin? De la grâce. De la grâce. Il donne la grâce et la gloire. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de sa grâce. Vivre de sa grâce, nager dans sa grâce, ce n'est pas abuser de la grâce, mais c'est reconnaître chaque jour que j'ai besoin de la grâce, que sans la grâce, je ne suis rien. Ma grâce te suffit. Vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes enseignés par la grâce. La grâce qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, vous enseignant comment vous devez vivre dans ce siècle, dans la sobriété quant à vous-même, dans la justice quant à votre prochain, dans la piété quant à Dieu. Toutes les relations sont bien manifestées, pieusement, avoir une relation avec Dieu, intimement, dans la justice, être juste dans mes relations avec mon prochain, et quant à moi-même, qu'est-ce que j'ai à me permettre? Eh bien, vivre dans la modération, en toutes choses, dans la sagesse. C'est cela, l'équilibre. Alors, le Dieu de paix sera avec vous. Verset 21, après le vœu apostolique, donc qui est la grâce, vous avez Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, c'est un Canadien, Jason, hein. Et Sophie Pater, mes parents, alors je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qu'est-ce qu'il vient faire ici celui-là? Secrétaire de l'apôtre. Alors, vous voyez que l'apôtre Paul laisse le secrétaire mettre un petit mot personnel. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Puis il y a Gaius, mon hôte. Ah oui, c'est très gâteau, Gaius. Vous voyez que ça commence aussi par là, Gaius. Mon hôte et celui de toute l'église vous salue. Erast, le trésorier de la ville, donc il y a aussi des gens de qualité, hein. Le trésorier de la ville vous salue. Il a encore son occupation, il est trésorier, mais il est croyant. Donc on peut être trésorier et croyant. Ça ne gêne pas, au contraire, hein, parce qu'on sait que les comptes seront bien faits. Ainsi que le frère Cartus. Le frère Cartus. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire de lui. On ne sait pas. Le Seigneur le sait. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, alors ça, c'est ce que nous verrons demain, mais lisons quand même ce passage, cette doxologie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu, du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors dans cette dernière partie, l'action de grâce au Dieu de l'Évangile, l'apôtre dans son besoin pressant, d'attribuer vraiment toute gloire à Dieu, avant de finir, il donne une dernière fois essor à la pensée qui remplit son cœur et son épître. Premièrement, pour affermir les chrétiens dans la foi, il attend tout de Dieu et de la puissance de sa grâce. Quelle est ma confiance pour vous? J'attends tout de vous? j'attends tout de Dieu et de la puissance de sa grâce. Et puis, ce que je sais aussi, c'est que Dieu le fera, selon l'évangile qui a été prêché. Et l'apôtre peut appeler cet évangile qu'il a prêché le sien, parce qu'il l'a prêché, alors il parle de son évangile, c'est pas un autre évangile. L'évangile qu'il a prêché, c'est le sien, parce qu'il le vit. Et c'est le même évangile que Pierre, que Jacques, que Jean. Mais il l'appelle son évangile, parce que c'est l'évangile qu'il a prêché. Et il résume cet évangile tout entier en ces mots. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est la prédication de Jésus-Christ. C'est la prédication de Jésus-Christ qu'il a fait connaître. Parce que le Sauveur en est l'objet, le centre et la vie. Voilà la vraie prédication. Une vraie prédication, une prédication authentique doit avoir pour objet le Seigneur. Pour centre, le Seigneur. Pour vie, le Seigneur. Tout se résume là. Jésus connu comme Sauveur, Jésus connu comme Seigneur, Jésus connu comme le bien-aimé de notre vie. Cela fait un sauvé, un racheté. Cela fait un disciple quand on obéit. Cela fait un saint si on aime le Seigneur. Et cet évangile n'est que la révélation de ce mystère de miséricorde et d'amour qui était caché dans l'Ancien Testament et qui a été révélé que le conseil de Dieu de tout temps, c'était de sauver pas seulement les Juifs, mais les païens, de sauver tous les hommes. Et à qui est-ce que ça a été révélé? Pas aux prophètes de l'Ancien Testament, mais aux prophètes du Nouveau Testament. Ces hommes qui sont devenus prophètes parce que le Saint-Esprit les remplissait et leur donnait, leur communiquait ces paroles. Ainsi, Paul n'était pas seulement apôtre, docteur, évangéliste, mais il était aussi prophète. C'est-à-dire qu'il a apporté une parole qui édifiait, qui exhortait, qui consolait. C'est ça la prophétie du Nouveau Testament, et c'est pourquoi le Nouveau Testament peut être maintenant reçu comme l'a été l'Ancien. Toute écriture étant inspirée de Dieu est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, afin de rendre l'homme de Dieu accompli et propre à tout bonheur. Ce mystère caché, bien maintenant, il est révélé. Et qu'est-ce que c'est ce mystère caché? C'est que Dieu voulait sauver et les Juifs et les païens dans son amour. Alors, en finale, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Ce qui faisait dire à Calvin sa fameuse devise, soli deo gloria. À Dieu seul la gloire. Non point à nous, non point à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Psaume 115, verset. Bravo, Carole. Amen. Vous savez ce que c'est, un soupir inexprimable? Le Seigneur nous a conduits jusqu'ici. Alors il vous conduira jusque-là. Puisqu'il nous a conduits jusqu'ici, pourquoi ne vous conduirait-il pas plus loin? Est-ce qu'il y a des questions? C'est certainement une allusion à l'avènement du Seigneur, parce que c'est lui qui nous mettra hors du mur. Mais c'est aussi quand même une promesse qu'on peut croire que actuellement, immédiatement, dans les moments de crise que nous connaissons, eh bien, nous savons que le diable est vaincu, et traitons-le comme un ennemi vaincu, et attendons-nous à ce que le Seigneur manifeste qu'il est déjà écrasé. La puissance du Seigneur est vaincue. Mais il y a en même temps le point eschatologique. Non. Non. Ah oui, il en connaissait beaucoup, mais on circulait ce temps-là. On circulait malgré qu'il n'y avait pas les moyens de locomotion. Mais évidemment, quand on a un ministère comme Paul a eu, il y avait des relations entre les villes, et puis on allait souvent dans la capitale. Hein. Par exemple, d'abord, il y avait eu tous les Juifs qui étaient venus, qui venaient pour les fêtes à Jérusalem, et puis dans les villes de Grèce, de Macédoine, il y avait des gens qui avaient été convertis à Éphèse, justement, puis qui s'étaient établis à Rome. Et alors l'apôtre maintenait des liens. Et vous voyez, il avait ces noms dans son cœur. Il en cite 24, personnellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il en connaissait que 24. Mais ça, si tu vois, il a cité 24 noms. Ben, est-ce que nous aurions 24 personnes, nous, qu'on pourrait nommer comme connaissance dans le Seigneur? Je le pense. Hein. Mais depuis 12 ans que nous faisons Mahanaïm, ceux du début, hein, vous pourriez nommer 24 personnes de France, j'en suis sûr, dont Marcel. Alors, on commence par Marcel. Daniel Abraham, oui. Annie Vanzo. Francine Roux. René. Marie. Marie-Li. L'année passée, il y avait une Marie-Li. Souchet. Ben oui, il y a de nouveau pas mal de noms de femmes. Hein. Vous voyez, quand on veut voir l'œuvre de Dieu, elle prend mentionner les femmes. Dominique et Brigitte, qui vous saluent. Jean-Jacques, Guy, Loul, vous dites donc, vous en avez des gens. Madame Mudry, Monsieur Mudry, ça c'est la suite. Qui? Elisabeth Rivet. Catherine O'Connor, Micheline Gendra de Suisse, Madame Mère, Simone Mère, Martha Daniel en Algérie, David Bellet, le frère. Ah oui, Daniel Ratto et Paul Ratto. Ben Paul, il est marié. Figurez-vous qu'il est marié. Daniel est toujours en instance de mariage. Benoît Diébol, Florence Diébol, Étienne. Claude et Juliette, Jean-Claude et Juliette, Marie-France, Carole, Brigitte Carole, oui. Santine Denis, Annette. Alors Annette a trois enfants. Vous vous souvenez, elle avait une peau de renard. Jean, mais il est là. Il y a Eliane Bordreuil, Mélène Bercier, Lydie Leroux. Ah oui, Pascal. Donc, Patrick. Mais donc, vous voyez qu'on a tout de suite une grande liste des noms. Vous vous souvenez du noir? Vous vous souvenez des jaunes? Ousmane, qui était le fils d'un ambassadeur. Ousmane. Ah. Qui? Gertrude, oui. Et puis, Beaucivoir, vous connaissez? Et Thèse de Loi, d'où? De la Nouvelle-Calédonie. Puis on a eu aussi de Nouvelle-Zélande, qui Mathieu. On a eu d'Israël, Anita, Irène, Huguette. Vous vous souvenez d'Huguette? Et vous vous souvenez de Pharaon? On a eu le Pharaon. Et il a téléphoné il n'y a pas si longtemps, d'Égypte. On a eu Noéline. Huguette Harari, descendante des Harari. Dominique Pintor d'Italie, et puis Irène, et son d'Italie. Ceux d'Italie vous saluent. On a des Oui, mais tu vois, alors ça répond à la question de Françoise. L'apôtre, mais nous ne voyons que les choses de 12 ans seulement. Mais en 12 ans, on en a fait quand même des connaissances. Et vous vous rendez compte, quand on sera au ciel, on dit ça. Souvent, on s'est rencontrés là. J'espère que tous y seront. Comment? Ah. Je croyais que tu avais refusé. Comment est-ce qu'il se fait que tu es là? Tu as donc accepté? Mais tu ne nous l'as pas dit au camp. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous as laissé dans l'angoisse? Pourquoi est-ce que vous nous laisseriez dans l'angoisse? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le confesser? Vous avez encore ce soir pour le faire. Ce sera votre union. Et moi, j'écouterai. Avec joie. Mais je vous remercie pour vos prières. Le Seigneur nous a tenus jusqu'au bout. Alors nous sommes pleins de reconnaissance. Et je pense que je pourrais dormir un petit peu. Mais je suis heureux dans le Seigneur. Dans l'éveil souvent. Regardez l'apôtre Paul. Mais, et surtout n'essayez pas d'imiter parce que vous dites, oh ben, je suis raciné, c'est le déto, la nuit, enfin, ça. C'est pas ça qui vous est demandé. Je vous dis, prenez votre repos, prenez votre sommeil. Moi, je devrais le prendre aussi, c'est très bien. Oui, maman. Mais regardez une vie un peu apostolique. Ça ne veut pas dire après, il a pu se reposer en prison. Je ne sais pas si j'aurais ça, moi aussi. Mais ma femme dit que si j'ai eu souvent des opérations, c'est parce que, justement, le Seigneur me mettait à l'écart, à l'hôpital. Merci. Regardez un peu cette vie-là. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Mais ce que je dis, je le dis dans une espèce de folie, mais vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, ça vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux. Oui, il a fait des tentes. Hein. Bien plus par les travaux. Par les coups? Bien plus. Par les emprisonnements? Bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, ça fait combien? Oui, mais 5 fois. Hein? Ça fait quelque chose. 5 fois 39. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. Où? Alice. 3 fois j'ai été naufrage. Ça avait nagé. J'ai passé un jour et une nuit dans la dîme. Donc c'est pas trop. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves. Qu'est-ce qu'il y avait sur les fleuves? Des crocos? Des crocodiles? En péril de la part des brigands. Où? On a traversé des montagnes. Puis il y avait des brigands. Il n'a pas tout raconté, hein, mais on pourrait en dire là-dessus. Paul, raconte-nous une histoire. Qui étaient ces brigands? Quelle tête est-ce qu'ils avaient? En péril de la part de ceux de ma nation, ça on les connaît. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a des périls, bien sûr. Il y a la soie, il y a les scorpions, il y a les serpents. Il n'y a pas d'eau, justement. Il n'y a pas de Coca-Cola. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Et oui, mais il y a aussi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Ben oui, il y a des moments où on doit veiller. À la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid de Mahanaïm. Oui, au froid. Il a eu froid. Je ne sais pas si c'était où c'était, mais enfin, il a eu froid, il manquait de couverture. Il n'avait pas d'infirmerie pour aller en chercher une. Et même à la nudité. Je ne sais pas si on y avait volé ses vêtements, mais enfin. Il a connu ça, tout à coup il n'avait pas ses pantalons, non pas des pantalons, sa robe. C'est très ennuyeux ça. Mais oui, mais c'est réaliste. Hein. Si on vient vous voler vos habits, si l'apôtre Paul à un certain moment, parce qu'il était très propre, il a pris un bain dans la mer, il a mis ses vêtements là au bord, puis quand il sort, on lui a pris. Mais comment faire? Jusqu'à ce qu'on ait des habits, il faut prendre des feuilles de vigne. Ou... Il faut s'arranger. Mais enfin, ça arrive. Vous voyez, il dit ça même dans la nudité. Exposé à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ces autres choses? Il y a tout. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient attendre que je ne brûle? Vous comprenez ça? Il vit avec les autres. Et ce que les autres ressentent, il le ressent. Quand quelqu'un le voit faible, il se sent tout faible lui aussi. Quand quelqu'un vient attendre, il brûle. Il brûle comment? Il brûle pour que l'autre se relève. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. C'est beau. Il dit pas, je suis un fort, moi. c'est de ma faiblesse. Parce que le Seigneur lui a dit, quand tu es faible, c'est alors que je suis fort. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Puis après, il nous raconte son histoire, comment on l'a mis dans un panier à pain pour le descendre en bas de la muraille. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéliens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par la fenêtre dans une corbeille. Voyez ça, Paul qui voulait sortir une jambe, l'autre jambe. Puis on lui disait, attention, c'est la corde. Mais est-ce qu'elle allait tenir cette corde? On le descendait dans un panier. Paul dans un panier. Et oui, ben, il a été dans des situations assez extraordinaires. Et tout cela pour le Seigneur Jésus. Le long de la muraille, et j'échappais à leurs mains dans la nuit. Puis après tout ça, il dit, bien maintenant, je vous ai raconté tout ça, je vais encore vous dire autre chose. Un jour, je ne sais pas si je suis mort ou si je suis vivant, mais tout d'un coup, je me suis trouvé dans le ciel. Est-ce que j'étais dans mon corps et je vais être sans mon corps? Ça, j'en sais rien. Mais là, j'ai entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Puis je suis redescendu. Je me suis retrouvé avec mon corps. Là, j'avais bien mon corps. Puis voilà que, à cause de l'excellence des choses que j'avais vues, Dieu a trouvé bon de m'envoyer un ange pour me souffléter. Un ange de Satan. Parce que ces œuvres-là, c'est les anges de Satan qui les font. Mais sous le gouvernement de Dieu quand même. Par trois fois, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ça. Puis il m'a dit, ma puissance s'accomplit. Alors, il y en a qui pensent que c'était une maladie des yeux. Peu importe, hein, mais c'était quelque chose qui l'handicapait. Il y en a qui ont pensé qu'il bégayait. C'est pour ça qu'il dit que mes lettres sont graves et fortes, mais ma présence est méprisable. Donc, je ne pense pas qu'il bégayait. Je pense plutôt que c'était ses yeux. Parce qu'il dit aux Galates, je sais très bien que si vous aviez pu vous arracher vos yeux, vous me les auriez donnés. Mais ça, c'est aussi une expression qu'on dit, hein, parce que on est prêt à donner ce qu'il y a de meilleur pour quelqu'un. Mais enfin, pour nous, c'est pas la question de savoir ce qu'étaient les chardes de Paul, mais il en avait une. Et puis, le Seigneur lui a dit, ne continue pas de prier pour ça, ma grâce te suffit. Comme pour Moïse, je ne parle plus de cette affaire. Hein? Dieu se permet une liberté pareille avec des hommes comme Moïse et comme Paul. Alors, on est en amitié avec notre Paul. C'est beau. Hein? On apprend à aimer l'apôtre Paul. On apprend à le connaître. Voulez-vous chanter avant qu'on se sépare? Hein? Ah oui, le Seigneur est bon?